Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Alors que l'épidémie de coronavirus continue de progresser en France, le débat sur la réouverture des commerces agite de plus en plus les rangs de la majorité, même si ce matin encore le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a semble-t-il douché tous les espoirs des acteurs économiques. Les commerces ne pourront pas rouvrir à ce stade.
Des centaines de chercheurs ont manifesté hier à Paris contre le projet de loi de recherche actuellement examiné au Parlement.
Oui, nombre d'entre eux sont notamment scandalisés par la loi de programmation de la recherche qui prévoit un délit d'entrave, en l'occurrence 3 années d'emprisonnement pour les opérations de blocage dans les universités.
C'est là le dernier coup porté au camp pro-démocratie à Hong Kong.
La Chine a adopté ce matin une résolution permettant à l'exécutif local d'exclure avec effet immédiat tout élu mettant en danger la sécurité nationale. Enfin, après la traditionnelle cérémonie de l'armistice, Emmanuel Macron présidera ce soir l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix, l'occasion d'honorer tous les combattants de la Première Guerre mondiale. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Benoît Fidelin, ancien directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Pèlerin. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Oui, avec le portrait d'un psychanalyste hongrois qui a d'ailleurs notamment beaucoup travaillé sur le traumatisme de guerre de la Première Guerre. Il s'appelait Sándor Ferenczi, c'est l'autre Freud, à qui Benoît Peters, scénariste, écrivain, rend hommage, réhabilite d'une certaine manière dans cette biographie qui est apparue chez Flammarion.
En cette journée du 11 novembre, commémorant l'armistice de 1918, comment ne pas se poser une nouvelle fois la question ? Quand pourrons-nous enfin célébrer la joie libératrice de la fin de cette crise inédite qui, depuis la rhétorique martiale du chef de l'État le 16 mars dernier jusqu'au fameux Conseil de défense, principal lieu de pilotage face à l'épidémie, en passant par les alertes de plus en plus nombreuses aujourd'hui quant aux risques psychosociaux qui pourraient affecter une génération dite sacrifiée, nous rappelle constamment que nous sommes en guerre. Ce matin encore, l'espoir suscité par une possible introduction prochaine d'un vaccin contre le coronavirus se confronte à la terrible réalité des chiffres. 472 malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital ces dernières 24 heures et tout autant ont été admis dans les services de réanimation. En d'autres termes, la deuxième vague épidémique progresse toujours et encore. Alors dans ces conditions, il est encore trop tôt pour envisager un assouplissement du confinement, comme l'a encore rappelé hier le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Sauf qu'entre prudence sanitaire d'un côté et demande pressante des acteurs économiques de l'autre, le gouvernement marche désormais sur des œufs. Pour l'heure, le ministère de l'économie, qui rappelons-le, n'était pas favorable à la fermeture des commerces et bornés, a indiqué qu'il n'y aura pas de réponse avant demain, comprenez, avant que le Premier ministre ne prenne la parole, ce qui n'empêche pas Bercy de réfléchir à des scénarios alternatif et notamment une réouverture sous contrôle sanitaire renforcé dans quelques semaines. Et pendant ce temps, joue Geoffroy Roux de Bézieux, lui le président du MEDEF, insiste et plaide pour une réouverture au plus tard le 1er décembre. On l'écoute.
On a besoin de réouvrir les commerces parce qu'on a des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui sont en train de mourir. Et on ne peut pas se permettre de passer Noël, décembre, sans ouverture. Donc l'extrême limite, c'est vraiment le 1er décembre. En termes de mesures sanitaires, il faut prendre un cocktail. Nous, on a proposé de revoir les jauges. En français, dans le texte, le nombre de gens par mètre carré. Et on a proposé de peut-être durcir le protocole, mais qui est déjà très durci, hein. Et puis, il y a peut-être la notion de prise de rendez-vous qui ne convient pas à tous les commerces, mais qui pourrait être mis en place. En tout cas, le message, il faut rouvrir vite. Pourquoi ? Parce que le commerce n'est pas une source de contamination. Ça n'est pas vrai de dire qu'on se contamine dans une librairie. Ça n'est pas vrai de dire qu'on se contamine dans une bijouterie, chez un coiffeur. Alors, il y a quelques cas, bien sûr. Mais pour l'immense majorité, ils ont respecté très scrupuleusement les protocoles sanitaires.
On a Geoffroy Roux de Bézieux, interrogé par Thomas Giraudeau. Alors, après les appels du patron du MEDEF, et tandis que chacun semble désormais suspendu aux lèvres de Jean Castex, lequel fera demain un point d'étape sur le second confinement, voilà que certains membres de la majorité commencent à leur tour à s'impatienter. C'est le cas en particulier chez les députés proches d'Édouard Philippe qui siègent dans le groupe Agir et qui ont écrit 30 propositions au Premier ministre. C'est ainsi qu'ils prônent, par exemple, la réouverture des magasins dits non essentiels en échange d'un isolement plus strict des personnes testées positives. Les précisions de Laurence Perron.
La phrase de Sénèque, en exergue de ses 30 propositions, donne le ton. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Pour ces députés proches d'Édouard Philippe qui ont quitté les LR pour aider le président de la République, on se trompe de politique face au Covid. Ils font actuellement du lobbying pour réconcilier, disent-ils, santé et économie, avec notamment cette mesure, isoler de manière drastique les cas Covid positifs. Une amende de 10 000 euros en cas de transgression. Mais en échange, on leur proposerait un confinement, pourquoi pas dans des hôtels, avec le renfort de la réserve du service civique. Olivier Véran n'y serait pas défavorable, selon eux. Il l'avait en tout cas en tête dimanche dans Questions politiques sur France Inter.
Est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui d'accepter démocratiquement des mesures de contrôle des personnes qui seraient mises à l'abri ? J'ai vu des situations de cluster, notamment en entreprise, que certaines personnes, bien qu'elles se sachent positives, mais asymptomatiques, avaient fait le choix de quand même retourner travailler.
Les députés du groupe Agir assurent pouvoir compter sur le soutien du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ils estiment que les atermoiements du gouvernement, les stop and go et la fermeture des petits commerces pourraient coûter très cher politiquement à Emmanuel Macron. Ils déposeront une proposition de loi si le Premier ministre ne les entend pas demain.
J'évoquais en tout début de ce journal la journée mémorielle du 11 novembre et ce matin avait lieu la traditionnelle cérémonie de l'armistice présidée par Emmanuel Macron, qui se trouve correspondre aussi au centenaire de l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour.
Alors, confinement oblige, cette matinée mémorielle se sera déroulée en petit comité, mais les hommages ont malgré tout pu être rendus, hommages qui avaient notamment pour but, Nathalie, de souligner la continuité entre ceux qui se sont battus pour les valeurs de la France en 1914, donc, et ceux qui continuent de le faire en 2020.
Malgré la crise sanitaire et la menace terroriste, le protocole a été respecté, les symboles préservés. Le chef de l'État s'est d'abord ce matin incliné devant la statue de Georges Clemenceau, puis escorté de la garde républicaine, Emmanuel Macron a rejoint l'Arc de Triomphe en haut des Champs-Élysées pour cette commémoration de l'armistice et du centenaire de l'inhumation du soldat inconnu. Masque noir sur le visage, bleuet à la boutonnière, cette fleur de tissu créée en hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale, le président de la République a été accueilli comme il se doit, notamment par le Premier ministre, la ministre des Armées et ses deux prédécesseurs, à distance et sans poignée de main. Après avoir ravivé la flamme, le chef de l'État s'est recueilli devant la tombe de celui qui représente tous les soldats tombés pendant la Grande Guerre, mais aussi depuis une dizaine d'années, tous les militaires français morts en mission. Leur nom est désormais égrené chaque année. Et au cours des 12 derniers mois, 20 d'entre eux ont perdu la vie. Emmanuel Macron a tenu également à remercier les soldats présents, portant l'étendard de leur régiment, des régiments de leurs camarades disparus, mais aussi du 106e, celui du soldat et écrivain Maurice Genevoix, qui avec son entrée au Panthéon cet après-midi, emmènera symboliquement tous les poilus de 14-18 dans la nécropole des grands hommes de la République.
Et je précise, merci Nathalie Hernandez, que pour en parler, nous recevrons d'ici une dizaine de minutes Benoît Fidelin, ancien directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Pèlerin. Alors que la loi de programmation de la recherche qui prévoit un investissement de 25 milliards d'euros sur 10 ans arrive au terme de son processus législatif, celle-ci n'en reste pas moins et toujours très contestée par la communauté éducative. Pourquoi ? Tout d'abord parce que cette somme injectée par les marches progressives est jugée en trompe-l'œil par les opposants au texte qui relève que les montants les plus élevés ne sont pas programmés avant 2027. Et puis plusieurs dispositions ajoutées à la dernière minute par les parlementaires ont également fait bondir les enseignants-chercheurs, dont un délit d'entrave. Tara Schlegel, bonjour.
Oui, 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende pour ceux qui troubleront, je cite, la tranquillité et le bon ordre de l'établissement universitaire. Christelle Rabier est enseignante-chercheuse à l'EHESS, fondatrice du blog Academia.
Je ne sais pas ce que les sénateurs entendaient par tranquillité et bon ordre de l'établissement, mais nous on voit très très bien ce que c'est. C'est d'abord tout ce qui serait chahut pour protester contre, par exemple, des anti-IVG qui viendraient faire des conférences ou des féministes qui viendraient dire 2-3 mots à quelques personnes, mais aussi tout ce qui est occupation des facs, qui a été quand même le moyen de résistance, enfin de toute éternité.
Pas besoin d'évoquer mai 68 ou d'autres contestations plus récentes. Alors cette atteinte aux libertés, Thomas, se place dans un contexte plus large. La loi de programmation veut aussi priver le Conseil national des universités, le CNU, de quelques prérogatives majeures.
L'occasion donc d'évoquer le recrutement des enseignants-chercheurs qui risque, Tara, de devenir demain beaucoup plus local.
Oui, ça peut paraître technique, mais précisons d'abord qu'aucune discussion n'a eu lieu. Christelle Rabier.
En 6 heures, à peu près, peut-être en 8, parce que ça a été voté par 14 personnes dans l'hémicycle à minuit et demi, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29, Ils ont décidé de supprimer le passage par la qualification pour être recruté dans une université.
Alors la qualification, c'est ce qui confie au Conseil national des universités, c'est une instance de professeurs, d'enseignants-chercheurs élus par leur pair et en partie nommés par le ministère. Donc ce CNU présélectionne ceux qui pourront se présenter au concours d'enseignants-chercheurs justement. Le CNU examine donc les thèses, les articles, la capacité aussi d'enseigner et constitue une sorte de vivier de candidats compétents. Alors c'est une procédure qui garantit également un statut de fonctionnaire d'État aux enseignants, parce que les recrutements sont ensuite déjà locaux, université par université. Mais avant, il y avait cette garantie de qualité qui va donc disparaître, s'inquiète Sylvie Bauer. Elle est professeure à Rennes 2 et elle préside la commission permanente du CNU.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout se décide localement, comment est-ce qu'on peut avoir la garantie qu'un poste va être véritablement ouvert et pas fabriqué pour quelqu'un? Ça existe déjà. Alors je marche sur des œufs en vous disant ça, parce que les universités ont quand même souvent, très souvent, des pratiques vertueuses, mais pas toujours. Voilà. Donc c'est bien qu'on ait quelque chose qui se passe au niveau national avant le niveau local, et, histoire d'essayer d'éviter une espèce d'endogamie, par exemple. C'est très bien, on nous incite à la mobilité, je trouve que c'est pas une mauvaise chose du tout, et ça doit se passer déjà au niveau des recrutements.
Moins prudente, sa collègue Christelle Rabier frappe plus fort.
Nous, ce qu'on sait, c'est que le seul intérêt de supprimer ce truc-là, c'est que ça permettrait en fait au président d'université ou aux copains des présidents d'université de recruter qui il veut, quelle que soit la qualité et surtout la mauvaise qualité du candidat ou de la candidate.
Cette attaque du Conseil national des universités n'est pas nouvelle. Déjà, Nicolas Sarkozy, dans la loi sur l'autonomie, avait rêvé de lui couper les ailes. Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui semble l'avoir fait.
Classé parmi les fugitifs les plus recherchés au monde, il avait été arrêté le 16 mai dernier après 25 ans de cavale dans une ville de la banlieue parisienne où il résidait sous une fausse identité. Félicien Kabuga, financier présumé du génocide au Rwanda et ancien président de la tristement célèbre radio-télévision libre des Mille Collines qui diffusa des appels au meurtre des Tutsis, doit comparaître aujourd'hui pour la première fois devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Âgé aujourd'hui de 84 ans, il est accusé notamment de crimes contre l'humanité pour avoir participé à la création de milices Hutu, bras armés du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Si les Azerbaïdjanais ont bruyamment fêté leur victoire hier en Arménie, en revanche, la population ne décolère pas depuis la conclusion d'un accord de cessez-le-feu au Karabakh permettant à Bakou de conserver ses gains territoriaux dans l'enclave séparatiste. Et pour éviter que la situation ne dégénère rapidement, des forces d'interposition russes se sont déjà installées sur place. Elles ont d'ailleurs prévu d'y rester pas moins de 5 ans et seront assistées dans leur mission par une poignée d'officiers turcs. L'occasion de rappeler tout d'abord que Moscou et Ankara apparaissent évidemment aujourd'hui comme les grands vainqueurs de ce cessez-le-feu. Mais également de noter que si la Russie et la Turquie raflent la mise, Américains et Européens, eux, en sont réduits désormais à compter les points. Explication de Marie-Pierre Véraud.
Sur le papier, pourtant, la France co-préside le groupe de Minsk avec Moscou et Washington, groupe chargé de résoudre ce vieux conflit qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de victimes, conflit que l'on disait gelé, mais en fait, surtout oublié des chancelleries occidentales. Donald Trump n'a jamais manifesté un intérêt quelconque pour la situation au Haut-Karabakh et Paris a beaucoup déçu. Mais il faut dire que la position de la France n'est guère aisée avec une importante communauté arménienne. Elle est vue par l'Azerbaïdjan comme un arbitre partial. Paris n'a surtout pas mis à profit l'arrivée du Premier ministre Pachinian pour tenter de trouver enfin un accord. La France n'a pas vu l'importance d'investir des forces diplomatiques dans ce dossier, alors même que la donne basculait dans la région avec une Russie et une Turquie désireuses d'y accroître leur influence. Depuis près de 2 mois que les armes parlent, Paris n'a en fait pu qu'appeler à la retenue et exhorter les parties à un cessez-le-feu tout en apportant une aide humanitaire. C'est peu. Et aux côtés de la colère qui s'exprime contre le Premier ministre Pachinian à Yerevan, il y a aussi le ressentiment des Arméniens qui se sont sentis abandonnés par l'Europe et par la France. Cela laissera des traces. Cet accord consacre enfin le retour en puissance de la Russie dans une autre des anciennes républiques soviétiques et une victoire pour la Turquie d'Erdogan qui étend encore son influence dans le Caucase. Et ça, ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle pour Paris, ni pour l'Europe qui a manqué d'affirmer cette puissance qu'elle entend retrouver à la faveur du désengagement américain de la scène internationale. Dans ce dossier aussi, le multilatéralisme a fait long feu.
Comme une preuve de plus de l'inanité du principe un pays, deux systèmes censé garantir à Hong Kong des libertés inconnues en Chine continentale. Ce matin, le Parlement de Pékin a adopté une résolution accordant aux autorités de la région administrative spéciale le pouvoir de disqualifier les élus considérés comme menaçant la sécurité nationale. Et c'est ainsi que le gouvernement hongkongais a donc exclu 4 des 19 députés de l'opposition qui du coup ont tous aussitôt annoncé leur prochaine démission. C'est une correspondance signée Florence Dechangy.
Les députés du camp pro-démocratie n'occupaient déjà plus que 19 des 70 sièges du Conseil législatif, le Parlement local de Hong Kong. La Chine en a écarté 4 cet après-midi par une décision unilatérale. Du coup, en fin de journée, les 15 derniers députés de l'opposition ont mis à exécution la menace qu'ils avaient formulée la veille et ils ont démissionné en masse par solidarité avec les députés écartés par Pékin. Le Parlement de Hong Kong se retrouve donc sans opposition. Kenneth Leung est l'un des 4 députés disqualifiés.
Aujourd'hui est un jour triste pour Hong Kong, mais c'est aussi un jour de gloire pour nous tous. Nous devons quitter nos postes. Cependant, il y aura d'autres Hongkongais qui prendront la relève avec les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, le même espoir. Et je suis sûr qu'ils continueront à se battre pour les valeurs fondamentales de Hong Kong.
Pourtant, la nouvelle interprétation de Pékin exige de tous les députés de Hong Kong d'être désormais des bons patriotes chinois. Elle ferme donc la porte du Parlement à tout futur député prônant justement les valeurs de démocratie et de liberté fondamentale. Même certaines voix modérées du camp pro-Pékin ont estimé qu'il n'était pas sain pour la gouvernance de Hong Kong de ne plus avoir d'opposition au Parlement.
L'application n'aura sans doute jamais aussi bien porté son nom. TikTok a déposé hier un recours de dernière minute auprès d'une cour d'appel américaine pour contester l'ordre donné par le gouvernement de Donald Trump d'obliger l'application vidéo de céder ses opérations aux États-Unis sous peine de l'interdire dès demain. Voilà des mois maintenant que celui qui occupe toujours la Maison-Blanche accuse sans preuve la très populaire plateforme de partage de vidéos de siphonner les données des utilisateurs américains au profit de Pékin. Et c'est là encore, sans apporter la moindre preuve des fraudes qu'il dénonce, que le milliardaire républicain continue d'affirmer, une semaine après le vote, avoir remporté l'élection présidentielle. Or, à l'exception des dissidents habituels, force est de constater qu'ils sont bien peu nombreux aujourd'hui parmi les élus républicains à oser prendre publiquement la parole pour suggérer à leur candidat d'accepter sa défaite. Pour preuve, cette déclaration pour le moins étonnante hier du plus fidèle des ministres trumpistes, Mike Pompeo, qui envers et contre tout et sans jamais invoquer l'ironie ou même le second degré a évoqué une transition en douceur vers une seconde administration Trump. D'où cette déclaration du président élu Joe Biden, jugeant que le refus de Donald Trump de concéder sa défaite était, je cite, source d'embarras. Et c'est d'ailleurs aussi ce que semblent avoir bien intégré les médias américains, dont les relations avec Donald Trump ont fini de se rompre lors de la dernière nuit électorale. C'est l'autre leçon de ce scrutin, une forme sinon de remise en question, à tout le moins de réflexion déontologique autour des déclarations souvent infondées du locataire de la Maison-Blanche. C'est un reportage signé de notre envoyé spécial, Claude Guibal.
Fox News, la chaîne qui a porté Donald Trump, qui à son tour interrompt une conférence de presse de sa porte-parole en pointant des arguments sans preuve. Pour Rick Klein, chef du service politique de ABC, qui a la semaine dernière interrompu de la même façon Donald Trump lui-même, peu importe les procès en censure.
L'argument de censure d'un officiel, vraiment. Ce président, comme les autres candidats, a plein de moyens de se faire entendre de toute façon. Les gens peuvent consommer des médias de plein de manières. J'y ai beaucoup réfléchi depuis l'élection. Il y a un tel flot d'informations, de données, de discours, de réclamations, que nous devions être totalement solides pour dire aux gens le vrai du faux, rappeler les faits, et si quelqu'un dit quelque chose est faux, être capable de le dire le plus vite possible.
Le poids et la responsabilité des médias américains dans cette élection a été crucial. Qui, quand, comment annoncer la victoire ? Il a fallu faire également beaucoup de pédagogie, rappelle Rick Klein, insister sur l'importance du collège électoral, les règles constitutionnelles et surtout, pas de course de vitesse pour annoncer un résultat dans un contexte aussi inflammable. Pour Fox News, il s'agit aussi désormais pour le média conservateur de garder de la crédibilité, de conserver des annonceurs au moment où l'Amérique vire de bord. Quant à Donald Trump, il pourrait lancer son propre média, lui qui, en 4 ans, n'a cessé de détruire leur légitimité.
Il est presque 12h50. La suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Il avait permis d'immortaliser la mémoire des poilus et au-delà de célébrer l'invincible espérance des hommes. Maurice Genevoix, dont la vocation littéraire était née dans les tranchées de la Grande Guerre, rejoindra aujourd'hui à l'initiative du président Emmanuel Macron la crypte du Panthéon. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Benoît Fidelin, ancien directeur du magazine Pèlerin. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Pierre Neveu. Bonjour Pierre.
Bonjour Thomas.
Précisons tout de suite que Maurice Genevoix rejoindra ainsi les 560 écrivains combattants dont les noms sont inscrits sur les murs de la monumentale nécropole. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui l'œuvre de Maurice Genevoix?
Écoutez, Maurice Genevoix, c'est d'abord le plus grand écrivain de la Grande Guerre. C'est celui qui a fait 900 jours de guerre. Et qui, pendant, a réussi à écrire 900 pages absolument extraordinaires qui nous donnent à voir, à vivre la guerre à hauteur d'homme. C'est très important parce que cette guerre, on la vit vraiment à hauteur de section, à hauteur d'homme, comme je dis, et dans le sillage de tous ces jeunes hommes qui sont partis au front et qui ont souffert à l'époque où ils cherchaient justement leur bonheur. Et donc Genevoix, lui, sous-lieutenant, sorti de Normale Sup, hein, il est jeté dans cette fournaise avec une curiosité incroyable, et il va vivre cela et nous en rendre compte de manière absolument incroyable.
Et justement, Benoît Fidelin, on va entendre un extrait de nombreuses interviews de Maurice Genevoix qui raconte cette horreur de ces combats. Écoutez ce témoignage diffusé samedi dernier, c'était dans l'émission Toute une vie sur France Culture et sur franceculture.fr.
Je me rappelle l'un d'eux qui s'appelait Biloré, qui était pris tout à coup par une sorte de délire, qui courait le long des parois de l'entonnoir, qui criait « Donnez-moi un flingue, bande de vaches, si vous n'avez pas le courage, moi je l'aurai !» et qui à la fin venait s'affaler dans mes bras, et je sentais dans les ténèbres, sous la pluie, son sang de martyr qui gouttelait sur mes mains.
Benoît Fidelin, on peut dire que Maurice Genevoix a eu toute sa vie une mémoire vive de toutes ces atrocités. Il en restera d'ailleurs traumatisé tout au long de sa vie.
Oui, il restera traumatisé tout au long de sa vie, mais il puisera dans ses épreuves, dans cette souffrance, finalement, des raisons de vivre, des raisons d'espérer, et il se consolera par un rapport unique qu'il avait avec la nature. Mais si on veut bien comprendre qu'est-ce que cette guerre a été pour Maurice Genevoix, il faut se rappeler ce qu'il disait à 84 ans, dans sa ville natale de Cise, lors de l'inauguration d'une cité scolaire qui portait son nom. Il a dit: je vais essayer de vous dire à peu près qui était Maurice Genevoix. C'est un garçon qui, lorsqu'il a eu 24 ans, a été embarqué avec des centaines et des centaines de milliers de jeunes hommes de son âge dans une aventure tragique, effroyable, dans un long tête-à-tête avec la mort, et qui a eu la chance, après avoir souffert, saigné, d'être enfin rendu à la vie, de ressusciter réellement. Et depuis ce jour-là, il n'a cessé de porter en lui le sentiment pathétique de la vie, de la merveille qu'est la vie, de la richesse du monde qui nous est quotidiennement donnée. Voilà, je crois, la clé de son œuvre. Voilà ce qu'il disait Genevoix. La guerre, il l'a vraiment vécue de toute son âme. Il a souffert, il a été mutilé, il a été touché de 3 balles le 25 avril 1917 sur la crête des Éparges. Il est rescapé. Et il a su dire ensuite, finalement, avec une fidélité incroyable et un talent littéraire vraiment merveilleux, ce qu'avait été cette guerre, mais vraiment, je vous le redis, nous l'a dit à hauteur d'homme, et c'est ce qui fait la force de son témoignage aujourd'hui, et le fait qu'il soit, comme l'a dit le président de la République, le porte-drapeau de ceux de 14.
Dans votre livre « Genevoix, mon ami », publié chez Bayard, vous évoquez Genevoix, l'écrivain du terroir de la nature, vous citez même André Chomex, qu'il reçoit à l'Académie française avec ces mots: « Vous êtes un auteur de plein air, un poète de la nature, devant l'univers, vous êtes comme un miroir. » Il a fait, Maurice Genevoix, de l'écologie une œuvre?
Oui, tout à fait. 90% de l'œuvre de Maurice Genevoix, c'est la nature. 10%, c'est la guerre. Voilà. Et son œuvre de nature, c'est le Buffon du XXe siècle, Genevoix. C'est celui qui nous montre, c'est un promeneur des rives, des futaies, un homme poreux au sein des choses vivantes, en accord parfait avec des lois intemporelles, avec l'arbre et l'animal, avec les météores et les saisons. Voilà. C'est un sourcier des mots. Et il prouve aux hommes que ce voisinage, voyez-vous, avec la création, eh ben, il finit par transmettre aux hommes, justement, le goût de la liberté, le sentiment d'être des maillons vivaces de l'humanité et même l'espérance de l'éternité. C'est une confrontation féconde avec la nature. C'est le premier écologiste, mais alors c'est pas l'écologiste sentencieux ni idéologue, absolument pas. C'est l'homme qui est la nature et il ressent quelque chose de profondément philosophique et même spirituel qu'il arrive à expliquer.
Dans son œuvre, rapidement, il parle de Rabolio le braconnier ou des biches et des cerfs. Dans la dernière harde, il parle de la mort, de la souffrance, du dernier souffle.
Oui, tout à fait. Alors très souvent, voyez-vous, vous faites bien de le dire, parce que dans son œuvre, il y a un rapport toujours à la souffrance. Ce n'est pas à la souffrance animale, à la souffrance des hommes. Bon, c'est inséparable de la vie des chasseurs, des pêcheurs, cette notion de mort, de souffrance. Mais chez Genevoix, si vous voulez, son amour de la nature, sa confrontation à la nature, elle n'est jamais naïve, elle n'est jamais trop bucolique, elle n'est jamais rêvée, elle est très réaliste. Et il a aimé la nature. Il l'a apprécié dans toute sa valeur à rebours de ses épreuves. Il faut bien comprendre qu'il n'aurait jamais aimé tant la nature s'il n'avait pas vécu la Grande Guerre.
Et l'on terminera.
Même chose quand il était jeune et qu'il pêchait sur les bords de Loire. Eh bien, il a découvert vraiment quelle était la nature en réponse à la mort de sa mère. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous, Benoît Fidelin, ancien directeur du magazine Pèlerin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Pierre Neveu. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Partout ailleurs, les nuages bas seront encore bien installés. Quant aux températures, elles afficheront entre 13 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction. 12h et encore 56 minutes, l'heure de vous retrouver Olivia Gesbert pour la grande table des idées.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, on est ensemble jusqu'à 13h30. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'autre Freud, avec notre invité, l'écrivain Benoît Peters. Il consacre un essai biographique à Sandor Ferenczi, fils spirituel du père de la psychanalyse, de l'auteur de l'interprétation des rêves. Né en 1873, Ferenczi, mort en 1933, le disciple hongrois a grandi dans l'ombre de Freud. Est-il parvenu depuis à s'émanciper, voire à s'affranchir de cette figure tutélaire? En quoi sa pensée ou sa pratique diffère-t-elle? Un livre pour réhabiliter cet enfant terrible de la psychanalyse, comme vous le nommez, Benoît Peters, comme il se désignait lui aussi parfois, et pour raconter à travers lui une autre page de l'histoire de la psychanalyse. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance, mais plaisir de vous avoir, non pas pour parler de bande dessinée, on avait pourtant avec nous Cyril Pedrosa dans la première partie de la Grande Table pour le deuxième volume de son Âge d'or, mais pour parler avec vous de cette figure de la psychanalyse. Un mot de vous, vous êtes écrivain, vous êtes belgo-français, vous êtes scénariste et théoricien de bande dessinée, critique et spécialiste de Tintin, complice de François Skuiten pour la saga Les Cités Obscures chez Casterman, vous êtes donc un homme assez éclectique. Mais comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à cette figure de la psychanalyse, cet autre Freud qu'est Sandor Ferenczi? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout a commencé? Peut-être ce cours qui va vous laisser une trace dans votre esprit, un souvenir éveillé, cette rencontre par les mots d'un professeur avec ce psychanalyste?
Oui, j'ai eu la chance, c'était il y a pas mal d'années, Ferenczi était très peu connu en France, d'avoir un professeur de philosophie, au lycée Hoche à Versailles, qui nous a parlé, entre autres personnalités de la psychanalyse, de Sandor Ferenczi et de son livre Thalassa. Thalassa est le premier texte à avoir été traduit en français, et ça reste l'ouvrage le plus connu de Ferenczi, même si peut-être il dissimule les aspects les plus passionnants de son œuvre. En tout cas, ça m'avait suffisamment frappé pour que je continue à m'intéresser au fil des années au destin de tous les proches de Freud. Et c'est vrai que petit à petit, on découvrait ce que certains ont appelé la saga freudienne, cet entourage en rapport pour le moins compliqué avec le maître. Et quand le premier tome de la correspondance entre Freud et Ferenczi est paru, c'était en 1992, j'ai été immédiatement passionné par cet ouvrage où se mêlent la vie privée, la vie la plus personnelle, l'amitié, et en même temps des considérations théoriques, en même temps la psychanalyse en train de se constituer, puisque Ferenczi rencontre Freud en 1908, à un moment où la psychanalyse existe à peine.
Et pour vous, la rencontre du coup va se faire ainsi, hein, étudiant dans les années 70, tandis que ce professeur de philosophie vous parle de l'ouvrage le plus célèbre de Ferenczi, Thalassa, publié en 28, traduit en France chez Payot, ce cours qui va vous laisser dans l'esprit une petite étincelle et l'envie d'y revenir, réveillé aussi par la redécouverte de sa correspondance avec Freud sur près de 30 ans. Ce sera votre matière première pour cette biographie, Benoît Peters, car il y a assez peu d'archives disponibles. Qu'est-ce qu'il ressort principalement de cette correspondance ?
Alors, c'est une correspondance immense. C'est aussi la plus intime des correspondances de Freud avec un de ses proches. On sait que Freud est un épistolier remarquable. Il a une puissance de travail énorme et presque chaque soir, il envoie 3 ou 4 lettres à des proches, à des disciples. Et ces lettres sont toutes très différentes. Mais les plus personnelles, les plus intimes, les plus chargées d'évocation familiale ou de doute sont celles envoyées à Ferenczi. Et bien sûr, j'ai tenté de retrouver à côté des œuvres de Ferenczi, qui aujourd'hui sont toutes traduites, j'ai retrouvé d'autres correspondances, d'autres documents, d'autres traces qu'il a laissées, même s'il est vrai que je n'aurais pas pu écrire à son propos une biographie aussi exhaustive que celle que j'ai consacrée par exemple à Jacques Derrida, où là l'archive était immense, tout avait été conservé, beaucoup de témoins étaient encore vivants. Pour Ferenczi, il nous reste une témoin essentielle, Madame Judith Dupont, qui a aujourd'hui 95 ans, mais qui se souvient encore du jour de la mort de Ferenczi. C'était très émouvant pour moi de l'entendre. Et puis, il y a surtout des témoignages indirects qu'il a fallu collecter peu à peu, parce que longtemps, il y a eu une sorte de légende noire autour de Ferenczi. On en parlait peu, trop peu. Depuis que la biographie de Freud par Ernest Jones avait laissé entendre qu'il était mort fou, paranoïaque, et que les recherches de ces dernières années étaient sans valeur et ne méritaient pas d'être publiées.
Alors on va tout de suite entendre la voix de cette femme, Judith Dupont, qui est aussi psychanalyste, éditrice et traductrice en France, traductrice française d'origine hongroise, notamment de Thalassa, de Ferenczi. On va l'écouter puisque vous l'avez rencontrée, vous l'avez interviewée, vous avez pu enregistrer. Elle répond à la question de l'importance de l'œuvre et de l'homme dans ce cercle assez fermé, on y revient, de la psychanalyse.
La première idée qui me vient, c'est qu'il a souligné l'importance de ce qui se passe chez l'analyste aussi bien que chez le patient, et l'importance de la relation entre les deux, et de l'empathie, et de pouvoir être avec. L'implication à égalité lui paraissait quelque chose de très important. Et je pense que c'est une des raisons du rejet de Ferenczi, pourquoi ça a si bien marché, les propos de Jones, qui auraient pu ne pas avoir l'impact qu'ils ont eu, c'est que ce qu'il demandait aux analystes était quasi impossible.
Alors là, on entre déjà dans sa psychanalyse, mais on comprend aussi un peu mieux qui était l'homme. Et c'est d'abord aussi là-dessus que j'aimerais vous entendre, Benoît Peters, cette empathie qui faisait partie de ses qualités.
Oui, bien sûr, et il y a une différence fondamentale entre Freud et Ferenczi à ce point de vue-là, c'est que Freud se définit d'abord et de plus en plus comme un savant, comme un théoricien, voire comme un philosophe en ces dernières années, alors que Ferenczi sera d'abord un soignant, un thérapeute, avec un engagement de tout son être presque sans limite, et Freud le considérait d'ailleurs comme un meilleur analyste que lui. Il se partageait donc les rôles, la tâche, et c'est notamment sur la question de la pratique psychanalytique.